Bonsoir. Alors, dans toujours le même cycle de conférences qui est organisé par Laboratoire Migrataire, histoire des migrations et lutte contre les discriminations, j'ai demandé aujourd'hui à Nassima Moujoud de venir nous présenter ses travaux. Nassima Moujoud vient de Grenoble. Elle est chercheuse au laboratoire Le Lara. Je vais te laisser te présenter. Et cette conférence aujourd'hui a pour but de vous montrer aussi ce qu'on peut faire dans les travaux qui concernent le genre. Je crois que c'est des choses qui sont souvent galvaudées, mal présentées. Faire du genre, c'est pas distinguer les hommes et les femmes, bien évidemment. C'est bien plus complexe que ça. Et je crois que la conférence que va nous faire Nassima aujourd'hui a pour but de vous montrer la pertinence intellectuelle des études du genre dans les questions migratoires. Alors, je te les présente. Là, ils ne sont pas très nombreux ce soir. Je ne suis pas super content, mais bon, tant pis. Des étudiants du Master 1 en partie et quelques-uns du Master 2 qu'on dirige à Migrataire Migration Internationale.
Merci. Oui, peut-être que vous n'êtes pas assez nombreux, mais surtout, vous laissez les chaises devant vide. Mais bon, on fera avec. Alors, Nassima Moujoud, je suis maîtresse de conférence en anthropologie au LARA. Le LARA, c'est le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, qui est situé à la fois à Lyon et à Grenoble. J'ai fait une thèse d'anthropologie sociale à l'École des hautes études en sciences sociales sur la migration des femmes seules en situation irrégulière qui viennent notamment du Maroc vers la France. Et j'ai fait d'autres travaux sur lesquels on pourra peut-être revenir. Là, aujourd'hui, j'interviens sur le genre comme construction sociale, donc comme rapport social de pouvoir, et la construction de la figure de la migrante en France. Et je partirai notamment de la situation de femmes seules et sans papiers en France. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Yann Zucker pour cette invitation et à remercier aussi Anne Bonnefoy, qui n'est malheureusement pas là, mais en tout cas, je les remercie et je vous remercie aussi vous d'être là. Alors, mon intervention va se situer en deux points. D'abord, qu'est-ce que ça apporte, la perspective genre, dans l'étude des migrations? Quand on parle de genre et migration, qu'est-ce que ça implique? Et qu'est-ce que la perspective genre a permis de voir ou d'introduire dans les études sur les migrations? Le deuxième point portera plus particulièrement sur la migration des femmes entre guillemets seules et sans papier. Ce cas de migration de femmes seules sans papier nous permettra d'aborder la question de l'autonomie par les migrations, et sachant tout de suite qu'en fait la question de l'autonomie des migrantes est l'une des deux principales questions abordées dans les travaux sur les migrantes ou dans les travaux sur genre et migration. En fait, les deux principales questions abordées dans les travaux sur genre migration ou sur migration des femmes en général sont d'une part les causes de la migration, pourquoi partent-elles, et d'autre part s'émancipent-elles en migration. Très souvent, on parvient à dire qu'elles s'émancipent, que les femmes s'émancipent en migration. On reviendra sur ce point. Oui, un autre point avant de commencer, la question de ce qu'apporte la perspective de genre à l'étude des migrations, c'est les femmes seules. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des lectures ou des travaux sur la migration des femmes, ou si vous avez une idée sur la migration des femmes, mais sachez que très souvent, dès qu'on parle de migration des femmes seules, notamment en France, et en particulier à propos des maghrébines, on demande est-ce que cette migration existe? Est-ce que les femmes peuvent partir seules? Est-ce que cette migration existe? Peut-être que vous ne comptiez pas me poser la question, mais sachez que c'est une question qui se posait à moi très souvent. Mais nous verrons justement à travers ce qu'a permis de voir la perspective genre que ce sont les constructions un peu androcentriques de la migration qui n'ont pas permis de voir la migration des femmes seules. Et en tout cas, la perspective genre a permis de montrer que les femmes, non seulement elles ont toujours travaillé, et les femmes migrantes, non seulement elles aussi, elles ont toujours travaillé, mais elles ont toujours migré. Ce qu'apporte la perspective de genre à l'étude des migrations ? J'insisterai sur deux points. D'abord, un rappel sur les réalités des femmes migrantes, et puis ensuite, les remises en question de théories classiques. Pour ce qui est des rappels sur les réalités des femmes migrantes, les travaux qui se sont basés sur la perspective de genre ont insisté sur l'invisibilité ou l'invisibilisation des femmes migrantes, c'est-à-dire les femmes migrantes, même si elles existaient, elles étaient invisibilisées par les regards à la fois politiques, scientifiques, qui ne permettaient pas de les voir et donc de prendre en compte leur migration. On supposait que certaines migrations étaient largement masculines ou n'étaient que masculines, tout simplement parce qu'on se basait sur des paradigmes qui étaient réducteurs et qui ne permettaient pas de voir cette migration. Alors les travaux sur genre et migration ont beaucoup insisté sur l'invisibilité comme processus qui ne permet pas de voir la migration des femmes seules, ou pardon, la migration des femmes en général et pendant longtemps. Les femmes, en fait, sont en général invisibles ou vues seulement comme, ou plutôt sous l'angle du regard patriarcal, c'est-à-dire comme la société pense et dit qu'elles sont, et non pas comme elles sont elles. C'est-à-dire que si on regarde les femmes du point de vue de ce que la société dit ou pense qu'elles sont, c'est une démarche qui ne permet pas de voir ce qu'elles sont vraiment. Là, pour ce qui est des femmes en général, mais encore plus pour les migrantes, parce qu'elles sont considérées en général comme économiquement inactives et dépendantes économiquement. Ou bien elles travaillent dans l'économie invisible, souterraine, informelle et peu reconnue comme productrice. L'autre raison pourquoi les femmes migrantes ont été invisibilisées, c'est que leur rôle dans l'économie, le rôle économique dans les pays d'origine et d'arrivée sont tenus pour négligeables. Ils ne sont pas considérés comme importants au niveau économique, et ce, dans les deux sociétés de départ et d'arrivée. Elles ne sont pas prises en compte dans l'analyse de la décision de migrer. Elles sont vues comme suiveuses, c'est les femmes qui suivent les maris qui décident de partir, ou les filles qui suivent. Mais en tout cas, elles sont encore vues comme suiveuses, regroupées, et c'est le modèle en fait de la famille patriarcale qui s'applique de manière plus importante dans le regard sur les migrantes. Elles ne sont pas prises en compte dans l'analyse des droits politiques et dans, par exemple, l'acquisition de la nationalité ou des papiers, des documents de séjour ou autres éléments politiques. En tout cas, cette question de l'invisibilité était importante dans les travaux sur genre migration. Ces travaux ont aussi montré la forte et ancienne présence dans les migrations à la fois internes et internationales. Et quand on dit forte et ancienne présence dans ces deux types de migrations, c'est-à-dire forte et ancienne présence à la fois historique et contemporaine. Ancienne, oui. Beaucoup de femmes dans les migrations internes et dans les migrations de courte distance depuis longtemps, c'est-à-dire plusieurs travaux, et ce, par exemple, dès 1885-1889, Ravenstein, dans son livre « Les lois de la migration », montre que les femmes sont les plus grandes migrantes sur les grandes distances. Et si l'on se réfère à la période contemporaine, si l'on prend par exemple l'exemple d'un des pays africains, par exemple le Maroc, il y a une chercheuse qui s'appelle Aïcha Belarbi qui, depuis la fin des années 90, a montré que les femmes, justement, sont majoritaires parmi les migrants internes. L'une des raisons de cette importance quantitative des femmes dans les migrations internes dans les pays du Sud en général, et là en l'occurrence dans le Maroc, c'est aussi le travail dans les services domestiques. Mais on le verra que ça va être la même chose dans les migrations internationales. Les femmes ont toujours été importantes, quantitativement importantes dans les migrations à courte distance. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes migrent du fait des logiques d'alliance matrimoniale, c'est-à-dire la migration à la suite d'un mariage. Et ce type de migration n'est pas propre aux migrantes du Sud, mais il existe au Nord comme au Sud. C'est-à-dire les femmes qui suivent la résidence du mari. Et beaucoup de femmes migrent pour un premier emploi dans le travail domestique, surtout dans les cadres des migrations rurales et urbaines. Le gros changement, l'important changement, c'est à la fois contemporain, qui date notamment depuis les 95 environ, c'est le développement et la visibilisation dans le cadre des migrations internationales. Quand on dit visibilisation, c'est-à-dire qu'elles existaient, mais elles ont été plus visibilisées à partir de 95. À ce moment-là, la moitié des migrantes internationales, la moitié des migrants internationaux sont des migrantes. S'agit-il d'une féminisation ? Est-ce que c'est une féminisation ? Est-ce que d'un seul coup, les migrations internationales ont été féminisées ? Et d'ailleurs, le mot féminisation, on le retrouve beaucoup dans les travaux sur migration ou sur femmes et migration, en tout cas dans les travaux qui ne prennent pas forcément en compte la perspective genre. Pas tout à fait, car la migration des femmes existe depuis longtemps. Mais par contre, c'est vrai, cette féminisation apparaît dans certaines régions du monde, par exemple en Asie, mais surtout dans les modalités de migration. Ce qui a changé à partir de la moitié des années 90, selon plusieurs travaux, notamment celui de Jules Falquet, auquel je me réfère beaucoup dans ce texte, les modalités ont changé. De plus en plus de femmes migrent seules ou en tant que chef de famille. Et là, c'est des types de migration qui ont été visibilisés à partir de la moitié des années 90. Quatre grandes raisons du développement de cette migration. D'abord, la fermeture de cette migration féminine et de la féminisation, si l'on accepte le terme. C'est la fermeture des frontières européennes en 63-74, qui implique le développement du regroupement familial. Et donc la fin, entre guillemets, du modèle, en tout cas majoritaire, de la migration de l'homme seul, et qu'à partir de cette période, c'est la migration des familles et des générations suivantes. Le développement de la migration économique des femmes pour cause de misère, tout simplement, et puis la demande pour cause aussi de la demande d'une main-d'œuvre pour tertiaire, pour les travaux qui ne sont pas délocalisables dans les travaux de service. Et les femmes sont de plus en plus chefs de famille. Et c'est l'une des raisons aussi qui explique l'importance de cette migration. Et notons qu'un quart des femmes, un quart des foyers dans le monde sont dirigés par des femmes. Et ça varie selon les régions, c'est plus selon les régions du monde. Et l'une des autres causes, bien sûr, du développement de cette migration féminine, c'est le développement des désordres divers, guerres, catastrophes écologiques et autres. Mais sur ces divers points, les chiffres sont peu fiables, peu divisés par sexe, et ce selon les régions, selon les périodes historiques. Et les femmes sont plus souvent illégales. Alors, il est très difficile de quantifier, en tout cas, il est très difficile de trouver des données quantitatives sur les migrations inscrites dans des cadres illégalisés. Et bien sûr, ce n'est pas la même chose d'être une femme. Ce n'est pas la même chose d'être une femme à cause d'abord de la discrimination multiple ou des formes de discrimination multiple que peuvent subir les femmes migrantes. Qui sont en général particulièrement défavorisées, même si ce ne sont pas les milieux les plus défavorisés qui partent, notamment dans le cadre des migrations internationales, mais ce sont des femmes qui se retrouvent en tout cas défavorisées. Et bien sûr, il existe une infinie diversité ou variété selon les époques, selon les lieux d'origine et d'arrivée, et selon les milieux d'origine des différents groupes de femmes. Oui, ce n'est pas toujours les plus basses catégories sociales qui partent, pour les migrations internationales notamment. Et il existe justement un énorme déclassement. Il existe plusieurs travaux qui portent par exemple sur les migrations philippines ou les migrantes philippines ou les migrantes d'Afrique Ou par exemple sur des Haïtiennes, et là je me réfère à un travail de Rosemary Joseph sur les migrantes haïtiennes en France, qui explique que ces migrantes ont des qualifications supérieures dans leur pays d'origine, mais n'arrivent pas à faire reconnaître leurs qualifications dans le pays d'arrivée. Mais en tout cas, ces femmes subissent des discriminations multiples et sont exclues des secteurs de travail reconnus, orientées très souvent vers des statuts familiaux, orientées par les lois migratoires vers des statuts familiaux et vers des secteurs de travail de service. Et là, on peut aussi se référer à l'histoire des politiques migratoires et donc des politiques de main-d'œuvre qui, historiquement, et si l'on prend l'exemple de la France, n'ont pas reconnu les secteurs de travail féminisés, les secteurs de travail qui étaient reconnus par... Dans le cadre des accords bilatéraux sur le travail, les accords bilatéraux entre différents pays ont recruté des travailleurs dans des conditions toujours difficiles et compliquées, bien sûr, mais en tout cas, ces accords bilatéraux n'ont pas intégré les métiers féminisés comme secteur d'accès à la migration régulière, à des statuts juridiques autonomes et en tout cas à une reconnaissance à la fois juridique, politique et donc historique.
Toujours pas.
Pardon ?
Toujours.
Toujours pas. Toujours pas, après, ça dépend des pays. En tout cas, pour la France, non. Mais je reviendrai après là-dessus. Il y a les métiers de service où les migrantes sont majoritairement orientées ne sont pas reconnus comme des secteurs prioritaires. Par exemple, je vais l'évoquer après, c'est pas un secteur qui permet la régularisation par le travail. Après, c'est un secteur reconnu qui ouvre la possibilité de droits sociaux, mais il ne permet pas la reconnaissance de cette migration comme une migration permettant l'accès automatique à des droits au séjour ou à des droits sociaux. Oui, les femmes sont exclues des secteurs de travail reconnus. Elles ont, en tout cas en France, là, de temps en temps, je me réfère à des situations générales, mais des fois, je m'arrête sur le cas français et je le précise. Par exemple, en France, les femmes qui étaient venues dans le cadre de regroupement familial ont eu des droits dérivés de ceux de leur mari jusqu'à 1984. C'est-à-dire les femmes qui sont venues par regroupement familial n'ont pas eu des droits indépendants de ceux de leur mari, mais leurs droits sociaux et politiques ont été nommés comme des droits dérivés. Donc, par exemple, la séparation, le divorce impliquait, surtout pour les premières années, impliquait la perte du droit au séjour ou la perte d'autres droits. La question des diplômes qui ne sont pas toujours ou forcément reconnus. Et bien sûr, un marché de travail très dur, ces femmes sont majoritairement vues comme non qualifiées ou qualifiées juste pour certains métiers. Et là, il y a un travail de Francesca Scanzi qui montre comment, dans plusieurs agences de recrutement de main-d'œuvre pour le nettoyage, le ménage, d'autres secteurs, d'autres métiers du secteur du nettoyage, on suppose que certaines migrantes de certaines régions sont culturellement qualifiées pour exercer tel ou tel secteur de travail. On le dit pas clairement, mais des documents précisent que Francesca Screndi analyse précisent que dans ses agences auprès desquelles elle a enquêté à Paris, telle migrante d'une telle origine, y compris les migrantes internes antillaises par exemple en France, et bien sûr des migrantes de telle ou telle région d'Afrique, du Maghreb ou autre, sont désignées comme culturellement qualifiées pour exercer dans tel ou tel secteur, le repassage pour les unes, le nettoyage et la propreté pour les autres, la garde d'enfants pour les autres. Les discriminations multiples en tant que femme issue de milieux défavorisés, pas les plus défavorisés des pays d'origine, mais quand même des milieux défavorisés, et en termes de race, d'ethnie ou d'origine nationale. Et puis les difficultés légales et le manque d'un statut autonome. J'en ai déjà parlé un petit peu sur le statut autonome, mais en tout cas, en général, les femmes sont vues où elles sont réellement dépendantes, donc réellement légalement dépendantes du mari, dans le cas à la fois du regroupement ou de régularisation par le mariage du mari et de la famille. Beaucoup de groupes de migrantes n'ont pas un statut autonome, statut juridique autonome, donc pour celles qui n'ont pas de papier, par exemple, se marier avec un local ou rester mariée malgré les violences conjugales est important. Un autre point que soulèvent plusieurs travaux sur genre et migration, plutôt certains travaux, par exemple celui de Jane Friedman sur genre et migration, c'est que les femmes ne sont pas reconnues comme un groupe politique. Il est toujours difficile pour elles de demander l'asile politique. Pour certaines régions du monde où les hommes parviennent à avoir l'asile politique, Jane Friedman se réfère beaucoup au cas britannique, mais elle cite aussi des situations en France. Les femmes ont souvent une participation politique différente des hommes, mais elles sont moins visibles et moins perçues comme telles, moins perçues comme éventuelles réfugiées politiques. Cette dépendance, les différentes formes de dépendance juridique seront force, plutôt de dépendance à l'égard ou de la famille ou du mari, seront force en raison du durcissement des lois migratoires. Un autre point qui montre que ce n'est pas la même chose d'être une femme, c'est le stigmate de la prostituée. Et le stigmate de la prostituée, c'est le titre d'un livre de Gail Faitherson qui parle du stigmate de la prostituée qui touche toutes les femmes, mais ce stigmate, elle touche de manière particulière les migrantes et les migrantes seules. Les migrantes seules sont souvent mal vues dans les pays d'origine. Après, c'est selon les milieux, selon les pays, selon les périodes, selon les milieux sociaux à l'intérieur de chaque pays, et bien sûr selon les individus. Et en tout cas, un certain tabou existe contre le départ des femmes. Un certain tabou existe contre les départs des femmes, y compris dans les sociétés qui disent que les femmes ne doivent pas, ne peuvent pas partir seules. Beaucoup de craintes sur ce qu'elles peuvent devenir. Donc, c'est les stigmates de prostituées ou de putes, pour reprendre le livre de Gail Faitherson, où certaines de ces femmes deviennent effectivement prostituées parce que tout simplement la prostitution est l'un des secteurs auxquels les femmes migrantes du Sud ou de l'Est sont assignées en Europe. Elles sont souvent aussi mal vues dans les sociétés d'arrivée. Dans les sociétés d'arrivée, on leur propose beaucoup de travaux dans le domaine des services domestiques ou sexuels, même s'ils sont venus pour d'autres types de travaux. Et il existe un mélange entre une sorte d'exotisation et de culturalisme, en tout cas un racisme qui imbrique à la fois l'exotisation et le culturalisme et le sexisme. On les considère parfois comme disponibles entre guillemets pour les hommes du pays. Et là, il y a des travaux, par exemple, notamment sur la Belgique ou la Suisse, où on analyse beaucoup le développement des agences matrimoniales, les agences matrimoniales qui proposent explicitement des femmes de telle ou telle région du monde pour mariage ou pour des liens matrimoniaux avec des hommes locaux, tout simplement parce que les femmes d'ici ne sont pas de vraies femmes. Sont supposées ne pas être de vraies femmes de foyer qui seront à la hauteur de la bonne condition féminine, et que les femmes devenues d'ailleurs seront plus disponibles pour répondre à cette exigence. Merci. Ces femmes-là, malgré tout, accèdent au travail, et on peut se demander si elles s'émancipent par le travail. Beaucoup de travaux sur genre migration parlent d'émancipation ou pas par le travail, mais en tout cas d'émancipation par le travail. C'est ce qui se passe aussi pour d'autres travaux sur genre en général, et pas seulement sur genre migration. Mais en tout cas, c'est par le travail, par l'intérêt porté par le travail, que les femmes migrantes sont sorties de l'invisibilisation. C'est parce que, par exemple, Myriana Moroković en France, dès déjà la moitié des années 80, a beaucoup travaillé sur le travail des femmes yougoslaves en France, ou bien d'autres chercheuses, surtout chercheuses sur le travail de migrantes, que les femmes migrantes ont commencé à sortir de l'invisibilité et qu'on a commencé à penser qu'elles existent. Mais c'est la même chose pour les femmes en général. La plupart des travaux qui se disent féministes ou qui portent sur le rapport social de sexe ou sur le genre en France ou ailleurs ont d'abord beaucoup insisté sur le travail des femmes et c'est par ce biais qu'elles ont tenté de sortir les femmes de l'invisibilité. Et en tout cas, c'est des questions voilà, que j'ai évoquées de manière très schématique. Et, en tout cas, ce ne sont pas des questions si simples du fait à la fois de l'imbrication de plusieurs facteurs dans la situation migratoire, de facteurs de racisme, de sexisme, de classisme, le fait qu'elles parviennent d'un milieu social et que, et je l'évoquerai après, ces différents rapports ne se situent pas uniquement dans la société d'immigration. Elles s'inscrivent dans la continuité à la fois historique et transnationale, mais je vais revenir là-dessus. Mais sur l'émancipation par le travail, on peut juste dire maintenant, est-ce qu'on peut parler d'autonomie ou d'émancipation par le travail, alors que ce sont très souvent des femmes orientées vers des secteurs de travail dévalorisés, dévalorisants, mal payés, mal reconnus. On reviendra là-dessus si vous le souhaitez. L'autre point ou l'autre apport des travaux qui introduisent la perspective genre, c'est la remise en question théorique de théories classiques. Par exemple, les théories individualistes sur les causes de la migration. Très souvent, dans les théories classiques sur les causes de la migration, on a supposé que le migrant pionnier est un homme aventurier qui part seul et qui décide tout seul. Ici, dans les travaux qui ont introduit la perspective genre, les migrantes ne sont pas ces aventurières qui partent pour la conquête, mais souvent des femmes qui partent en sachant parfaitement qu'elles risquent de subir un déclassement. Et là, je pense notamment au travail de Rose Merly Joseph sur les femmes haïtiennes orientées vers les secteurs de services en France. Ou bien sûr, sur le travail sur les femmes philippines sur lesquelles a travaillé, auprès desquelles a travaillé Liane Moser, et qui sont presque toutes universitaires, orientées dans les secteurs de services. Et en tout cas, oui, les migrantes ne sont pas ces grandes aventurières. Et leur décision de partir n'est pas individuelle. C'est toute la famille, une union domestique qui est impliquée. Et il existe des travaux qui disent que c'est la même démarche, y compris pour les hommes. C'est-à-dire, s'il a été plus facile de dire que c'est la famille qui décide pour la femme, il est aussi possible de dire que c'est la famille qui décide plutôt avec l'homme comme avec la femme qui part. Par exemple, si l'individu n'a pas assez d'argent pour partir, l'individu homme ou femme n'a pas assez d'argent pour partir, c'est toute la famille qui appuie le départ. On le dit très facilement et très souvent pour l'émigration des femmes, mais c'est le cas aussi pour l'émigration des hommes. Et bien sûr, les femmes appuient elles aussi le départ des hommes, comme les hommes appuient le départ des femmes. La migration, en tout cas, les travaux genre ont permis aussi de remettre en question l'idée de la migration comme quelque chose qui est motivé uniquement pour des raisons ou par des facteurs économiques. Ces travaux ont insisté sur la complexité des motivations. Ce n'est pas que les raisons économiques qui poussent au départ. Les raisons économiques sont imbriquées dans un ensemble de facteurs. Elles sont au croisement de tant de logiques. Par exemple, faire étudier ses enfants, étudier soi-même, faire soigner ses parents, ses proches, ses enfants, espérer de meilleures conditions de vie pour soi et pour ses proches, investir pour la scolarité de ses enfants. Et là, beaucoup de travaux, notamment anglophones, pourtant notamment sur l'Angleterre ou sur d'autres régions du monde, un peu moins sur la France, portent sur la migration des mères du Sud qui se retrouvent dans des travaux de garde d'enfants du Nord en laissant leurs enfants au Sud avec des nourrices sur place ou avec des membres de la famille. En tout cas, ça fait des mères à distance. Les autres théories qui ont été remises en cause par plusieurs travaux sur genre et migration, c'est les théories plus structuralistes sur la mondialisation. Et là, je pense au travail de Saskia Sassen et aussi au travail de Jules Falquet. Ici encore, les femmes ne bougent pas que pour des motivations économiques. Et en plus, leurs logiques économiques sont différentes entre guillemets, de celles des hommes, ou en tout cas de celles dont on parle beaucoup des hommes. Car du fait de la division sexuelle du travail, les femmes cherchent un autre type de travail, autre type de travail sur un autre type de marché qui est situé dans le cadre de la mondialisation. Et là, justement, c'est ce qu'Saskia Sassen parle de métropole globale, où beaucoup de migrantes sont orientées vers les secteurs du service et du care. Et dans le secteur du service, justement, le plus grand changement, au niveau à la fois des services dans les secteurs de santé, services ménagers ou autres types de services, services aux personnes âgées, Saskia Sassen insiste sur ce que cette migration introduit comme changement, en tout cas ce qu'elle implique dans le cadre des métropoles globales. En termes d'internationalisation des métiers du service et de construction de ce que Liane Moser appelle un marché mondial de la domesticité. Dans ce même cadre de la mondialisation, les travaux sur genre ont permis de penser le marché que certains appellent le marché du travail sexuel. Ces travaux ont insisté sur le développement du tourisme sexuel, à la fois dans les cadres des migrations internes et des migrations internationales, donc des réseaux de prostitution et les liens entre à la fois migration, prostitution, loi migratoire. Et là, je vous renvoie au travail notamment de Françoise Guillaumeau qui a à la fois mis l'accent sur l'importance de la prostitution dans la migration des femmes et sur l'importance de l'instrumentalisation du trafic des femmes et de la prostitution comme catégorie de stigmatisation des migrantes par les discours politiques et médiatiques en cours en France. En tout cas, c'est un travail qui permet à la fois de montrer l'importance de la prostitution auquel les femmes sont obligées, auxquelles certaines femmes, bien sûr, sont amenées à s'investir, et l'importance de cette prostitution comme discours amenant à la fois à victimiser les femmes migrantes et aussi à criminaliser les hommes de leur milieu. Là, je vous renvoie à un travail de Françoise Guillaumeau, justement, dont un numéro d'hommes et migration sur justement la migration de femmes africaines de régions anglophones qui se retrouvent en France objets de discours politiques et médiatiques qui les assimilent à des victimes de trafic d'êtres humains et où les hommes du même milieu se retrouvent comme des criminels acteurs de ces réseaux de trafic et en tout cas les uns et les autres sont invités à quitter le territoire pour que les femmes ne soient plus victimes de trafic. Disent-ils, pardon.
Ça dépend de ton énergie, non ?
Ça dépend de mon énergie. J'en aurai encore. Ouais.
Bon. 10 minutes, 20 minutes, 30
minutes ? J'essaierai de faire 10 minutes.
Okay. tu m'accordes 30 secondes ?
Oui.
On a quelques étudiants qui ne connaissaient pas qui n'étaient pas en France à la période que tu mentionnes, mais il faut dire que, grosso modo, un certain discours politique s'est développé il y a facilement maintenant 5 ou 6 ans, à la veille des dernières élections présidentielles, où la question de la prostitution des femmes subsahariennes de pays anglophones, comme tu disais, a été extrêmement médiatisée. Je dis ça, ben, évidemment, pour vous, c'est-à-dire que on a utilisé la question de la prostitution, disons-le clairement, des femmes noires comme étant un motif d'insécurité dans les villes. Et ce discours s'est extrêmement développé, a été repris bien évidemment, et a permis aussi de légitimer les expulsions de tout le groupe, parce que forcément, comme tu disais, les hommes qui étaient du même pays, des mêmes origines, étaient forcément des proxénètes, etc., etc. Donc il y a eu comme ça énormément d'instrumentalisation, il n'y a pas d'autre terme politique autour de la question des prostitutions. La question de la prostitution aussi a été mise en avant parce que dans les villes, je peux parler, moi je me souviens, je faisais ma thèse à Paris sur les boulevards des Maréchaux, quand je sortais des archives, on voyait beaucoup de prostitution tout à coup, il y avait une grande visibilité, et la conséquence a été de renvoyer toutes les femmes qui étaient pratiquant ce métier, de les renvoyer dans une invisibilité qui les rendait extrêmement vulnérables. Et donc, du coup, la prostitution a en partie disparu de nos regards dans les villes, ce qui ne signifie pas qu'elle a disparu, et a évidemment encore plus rendu vulnérables les femmes, parce que pour le coup, elles étaient isolées et loin des lumières, loin des réverbères, etc. Alors, une chose que je ne sais pas, mais peut-être que on pourra en discuter tout à l'heure, c'est la prostitution masculine. Elle existe, il y a des quartiers entiers dans Paris où ça se passe, bien évidemment, mais le discours politique ne s'en est jamais saisi. Ça, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être tu as une réponse. On verra après.
Je pense que c'est tout simplement parce que c'est plus facile d'instrumentaliser justement la prostitution des femmes que la prostitution des hommes. C'est au niveau de l'intérêt.
Mais des recombés.
Oui, et justement dans le même contexte d'instrumentalisation de la prostitution des étrangères et donc de la criminalisation des étrangers de la même origine, du même milieu social, et souvent de la même couleur, on voit aussi le changement des discours selon les périodes. Dans le début des années 2000, l'un des groupes objets de ces discours médiatiques et politiques étaient les Européennes de l'Est. Les Européennes de l'Est étaient supposées être
toutes les prostituées.
Oui, des objets aussi de trafic d'êtres humains. Les choses ont changé depuis que ces pays ont intégré l'Union européenne. Les Européennes de l'Est ne sont plus objets de discours, entre guillemets, les Européennes de l'Est, entre guillemets, pour ne pas dire les filles de l'Est, comme catégorie construite par les discours médiatiques et politiques, et non pas comme groupe réel et existant. Mais en tout cas, les discours changent, les discours sur tel groupe changent selon les périodes historiques, et les victimes d'hier peuvent devenir les invisibles d'aujourd'hui, tout simplement parce que les contextes politiques ont été modifiés. Oui, un autre point que les travaux sur genre rendent visible dans le cadre des études sur la mondialisation, c'est justement le développement de marché matrimonial. Le marché matrimonial mondial et justement les travaux sur les agences matrimoniales, les rapports nord-sud, est-ouest qui apparaissent dans le cadre de l'émergence de ces agences matrimoniales. En tout cas, il y a plusieurs nouveaux champs qui apparaissent depuis que la perspective genre a été introduite dans les travaux sur migration. Cela a permis de découvrir et d'inclure les invisibles et de transformer certains paradigmes et attirer le regard sur des réalités qui étaient longtemps négligées. Ça ne veut pas dire que ces réalités n'existent pas, peut-être qu'elles existaient ou non, peut-être qu'elles existaient autrement, mais en tout cas, c'était le regard à la fois journalistique, médiatique, politique, scientifique, porté sur la migration qui ne permettait pas de les voir. Et entre parenthèses, c'est la même chose dans le cadre de mon travail sur la migration des femmes seules du Maroc sans papier en France. Justement, il a été question de dire non, ces femmes sont peut-être, en tout cas ont été plus nombreuses à partir de la moitié des années 90, mais cela ne veut pas dire que la migration des femmes seules du Maroc ou du Maghreb n'a jamais existé. Bien au contraire, c'est une migration historiquement construite. Elle a accompagné les premières migrations, elle a accompagné la période coloniale dans le cadre de la migration interne et la période postcoloniale dans le cadre de la migration interne et internationale. Internationale ou plutôt franco-maghrébine. Mais en tout cas, c'est le regard porté sur la migration maghrébine qui, pendant longtemps, n'a pas permis et ne permet toujours pas de voir cette migration, de voir une migration de femmes autre que la migration par regroupement familial. Et bien sûr, on a par exemple des études sur des données statistiques dans les chiffres, on montre l'importance de migration de femmes veuves ou divorcées, par exemple, du Maroc. Mais dans l'analyse de ces chiffres, on se réfère au regroupement familial comme seul indicateur ou seul moyen d'arriver de ces femmes, tout en sachant que les veuves divorcées ont beaucoup de difficultés, ne peuvent pas être des femmes regroupées dans le cadre ou venues dans le cadre du regroupement familial. Oui, les travaux sur genre ont permis d'introduire de nouvelles approches du travail de la migration. Il n'existe pas beaucoup d'études sur le cas français, mais beaucoup d'informations et analyses sont à faire, car les femmes, beaucoup de femmes passent par les secteurs de services, par le travail des secteurs de services, ou comme premier travail, ou comme premier travail aux migrations, ou comme travail permanent. Mais en tout cas, ce sont les travaux qui introduisent la perspective genre, qui ont introduit les services domestiques comme un travail important. Les services domestiques, ou en tout cas les services en général, pas seulement les services domestiques. Et ce secteur des services ne se limite pas aux services aux particuliers, c'est un secteur intéressant aussi pour les entreprises et collectivités. Et en tout cas, c'était toujours des niches à la fois ethnicisées, les Espagnols, concierges et femmes de ménage, les Africaines pour d'autres secteurs de travail, les Maghrébins pour d'autres. Mais c'est récemment que ces groupes de travailleuses ont été invisibilisés, visibilisées. Et dans le cadre de ces travaux sur ces femmes qui sont orientées vers ces secteurs de travail, on a deux perspectives. D'une part, on pense qu'elles sont entrepreneuses d'elles-mêmes, et là, c'est ce que pense Liane Moser, sur les migrantes philippines en France, qu'elles supposent être entrepreneuses elles-mêmes. D'autre part, on suppose qu'elles sont exploitées structurellement par, entre guillemets, le sale boulot qu'elles effectuent. Le sale boulot, c'est le titre d'un ouvrage d'Anderson. En tout cas, le secteur du travail dans les services a été longtemps invisibilisé malgré son importance. Et c'est un secteur qui ne permet pas, par exemple, qui n'est pas reconnu en tout cas en France, qui ne permet ni l'embauche de travailleurs, travailleuses à l'étranger, ni la régularisation des travailleurs et travailleuses qui sont sur place et qui exercent dans ces secteurs. Et par exemple, dans le cadre des femmes que j'ai rencontrées dans ma thèse sur la migration des femmes seules sans papier, la majorité de ces femmes travaillent dans les services et toutes celles qui ont été régularisées ou par mariage ou par ancienneté de séjour, mais très majoritairement par les liens matrimoniaux et pas du tout par le secteur du travail où elles exercent, où elles pouvaient avoir un contrat de travail. Et en tout cas, toutes ces questions et toutes ces migrations renvoient à l'idée de l'émancipation ou de l'autonomie, qui est la deuxième, comme je vous l'avais déjà dit, la deuxième principale question soulevée dans les travaux sur genre en migration après celle des causes du départ. Les femmes s'émancipent-elles en migrant? Justement, la question des effets de la migration sur les femmes renvoie à l'autonomie, renvoie à les questions de l'autonomie. Mais pour rendre compte de cette question, je soulève rapidement trois points. D'abord, les limites des travaux, y compris les travaux sur genre et migration sur cette question. Les limites des travaux et des discours sur la question de l'émancipation par l'immigration. Nombreux les travaux et les discours qui prétendent que l'autonomie des migrantes est entamée, sinon achevée, avec le changement, supposé positif, le changement qu'elles vivent en immigration. On suppose des fois que le fait qu'elles accèdent au travail ou qu'elles accèdent à la contraception ou à la mobilité ou à d'autres droits qu'on suppose inexistants dans leur pays d'origine suppose une autonomie par rapport à ce que les femmes vivaient dans leur pays d'origine. Et ce sont des catégories qu'on retrouve de manière plus ou moins importante selon les types de travaux, selon les périodes, selon les moments, mais en tout cas, à partir de ce moment, je vais me limiter aux travaux sur le cas français et plus particulièrement sur les Maghrébines, parce que les Maghrébines sont un groupe de migrants qui focalise beaucoup l'attention de travaux sur migration. Beaucoup de travaux portent sur cette population et il est parfois difficile de trouver des travaux portant sur d'autres migrations. Et du coup, le fait que la plupart des travaux portent sur ces migrantes, ce sont ces travaux-là aussi qui nous permettent de relever les lacunes des travaux sur migration, sur femmes migrantes en France. Et en tout cas, on suppose que les femmes subissent un changement. Ce changement, quand il est supposé être positif, et très souvent il est supposé être positif par rapport à ce qu'elles connaissent dans leur société d'origine, ce changement est supposé être émancipatoire, leur permet en tout cas une émancipation. Et ce discours tente de comprendre le changement le changement, comme l'autonomie bien sûr, dans leur seule relation avec l'immigration, comme si le changement n'est pas possible en dehors de l'immigration. C'est-à-dire comme si le changement est impossible, n'existe pas, que les seules sociétés qui connaissent le changement sont les sociétés d'arrivée et que les sociétés de départ sont renvoyées à un statut figé. Et en fait, c'est plus ou moins clair selon les travaux, mais c'est une idée qui existe et qui se base très souvent, y compris dans les travaux critiques, sur la binarité, sur le regard binaire entre deux types de sociétés. On suppose que les sociétés d'ailleurs sont radicalement et simplement et naturellement différentes de celles d'ici. Donc les conditions qu'on a ici sont radicalement et simplement différentes de celles qu'on a là-bas. Oublions que la diversité, le changement, les rapports sociaux de pouvoir sont aussi bien importantes ici que là-bas et qu'une migrante qui arrive à un moment donné, dans un contexte donné, n'est pas représentative, sa situation n'est pas représentative de la situation de toutes les femmes qui sont là-bas et que peut-être sa situation représente plus la situation d'autres femmes qui vivent sur place que des femmes qui vivent dans son pays d'origine. Mais en tout cas, le regard binaire caractérise une grande partie des travaux sur genre, migration, y compris les travaux critiques, parce qu'on continue encore à s'inscrire dans le cadre national d'un pays, par exemple la France, et à ne pas s'inscrire dans la continuité à la fois transnationale et historique, parce que l'introduction ou l'intégration de l'histoire aurait permis de mieux voir les changements et donc les relations, les rapports, y compris les conflits historiques, et donc la colonisation, ce qu'a permis ou pas, et donc le changement introduit par la colonisation également. L'autre point que j'aimerais soulever rapidement, c'est sur ce discours ou ces travaux qui évoquent le changement ou l'émancipation à la suite de la migration, c'est qu'on oublie la détérioration de la situation matérielle globale des migrantes, du fait notamment des nouvelles formes de contrôle, c'est-à-dire des femmes par exemple des veuves ou divorcées qui ont travaillé dans les secteurs domestiques, par exemple au Maroc, qui ont vécu des situations dramatiques. Elles arrivent en France, deviennent sans papier. Elles ont espéré la liberté, elles ont espéré le changement positif dans leur situation, mais n'empêche, les restrictions légales qu'elles subissent en tant, par exemple, que sans papier, en tant notamment que sans papier, ces restrictions ne leur permettent pas de réaliser ce qu'elles ont espéré. Et ces restrictions deviennent très, très importantes dans leur vie. Plus importante que ce qu'elles ont vécu dans leur pays d'origine. Et en tout cas, ces restrictions législatives introduisent un nouveau contrôle, plus particulièrement dans le cas des sans-papiers qui sont légalement privés de droits. Et enfin, le discours sur l'émancipation par l'immigration oublie bien sûr les résistances des migrantes elles-mêmes. Les luttes des migrantes, des femmes elles-mêmes, y compris les femmes qui se retrouvent dans les situations les plus difficiles, ces femmes, si elles sont parties, si elles ont réussi à obtenir certains acquis, c'est grâce à leur lutte et non pas à leur simple arrivée en France, dans un pays qui leur aurait proposé une émancipation à l'avance. Oui, d'une part, les femmes introduisent elles-mêmes le changement, l'introduisent en partant, parce qu'en partant, elles ont déjà capitalisé un certain nombre de j'oublie le mot, mais en tout cas, elles ont déjà investi de compétences, merci Yann, elles ont déjà acquis un ensemble de compétences et développé un ensemble de stratégies qui leur ont permis de partir, notamment, de partir d'abord, puisque le contexte international européen ne permet pas l'accès au territoire européen aussi simplement. Ces femmes ont déjà investi pour partir, investi à travers leur propre résistance, leur propre stratégie. Et d'autre part, leur migration en tant que femme seule notamment, mais pas seulement, révèle les changements dans leur société de départ. Leur départ même est le révélateur d'un changement. C'est-à-dire, ces femmes n'ont pas attendu l'arrivée en migration pour connaître, subir ou créer du changement, mais le changement est derrière leur migration, et derrière leur départ. Donc, tu vois, en insistant sur les résistances dans ce contexte transnational, les résistances des femmes à la fois dans le pays de départ et les pays d'arrivée, il s'agit de dire que les femmes introduisent non sans mal, introduisent elles-mêmes des changements dans les contextes et les rapports sociaux des différents espaces qu'elles traversent. Et on peut revenir sur ces points lors des échanges. Et je vous remercie.
Distributeur de micro. Un léger commentaire. Tout d'abord, vraiment, je te remercie. Vraiment, je trouve ça intéressant et passionnant même. Et je le dis très rarement, ou en tout cas, il faut vraiment que ça soit quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Mais quand j'écoute des conférences, des fois, je sens une montée comme ça en puissance et ça me fait un bien fou parce que le cerveau marche. Et merci de me l'avoir fait travailler. Et c'est tellement plaisant. Donc, vraiment, mille merci pour tout. Tes références bibliographiques, ton travail de synthèse qui a été donné et toutes les ouvertures que tu as pu donner parce qu'elles sont, à mon sens, extrêmement pertinentes et novatrices. Donc, je te remercie vraiment. Je souhaiterais faire quelques commentaires puisque je suis un historien et pour le coup, je vois le temps long. Et il me semble que les recherches historiques, sur lesquelles je ne suis pas spécialiste dans la question de genre, loin de là, mais ont montré effectivement des choses très complémentaires. C'est-à-dire que le soupçon de la prostitution, par exemple, est quelque chose qui a été montré sur l'immigration, par exemple, nord-américaine. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les femmes seules prenaient le bateau et voyageaient. Et puis, peu à peu, il y a eu cette idée que la femme seule était forcément une femme qui était en passe de se prostituer, que c'était ou alors une femme de mauvaise vie, ou alors, et c'était très clairement dans certains discours politiques de l'époque, une femme de mauvaise sexualité. Et donc, pour le coup, il y a eu comme ça cette suspicion systématique des femmes migrantes comme étant des agents de désordre. Et on le voit dans les politiques nord-américaines dès la fin du 19e siècle, où elles ne rentrent plus, malgré les contrôles sanitaires, etc., etc. Et donc, pour le coup, la conséquence n'a pas été d'interrompre l'immigration des femmes seules. Elle a été de la rendre précaire, évidemment. Et que de plus en plus, les femmes seules qui arrivaient à rentrer sur les territoires, via le Canada, par exemple, pour arriver en Amérique du Nord, etc., etc., étaient des femmes qui se retrouvaient le plus sans droit et qui, pour le coup, étaient, avec les discours politiques, renvoyées à une précarité parce qu'elles n'avaient plus une certaine légitimité sur le territoire. Et donc, je crois qu'il y a des choses comme ça que le regard historique montre comme ça des grandes permanences. Et je trouve ça plutôt extrêmement intéressant. Et je ne sais pas si la situation est bien la même, parce que finalement, à la fin du 19e siècle, on a une action philanthropique énorme. Et l'action philanthropique, et je crois qu'on peut l'avoir de deux points de vue, l'action philanthropique est un moyen de domination absolument incroyable au 19e siècle. On a tout un tas d'associations catholiques, protestantes, juives, mais toujours religieuses. Bon, dans le cas de la France en tout cas, pas musulmanes, parce que l'immigration musulmane, pour le coup, n'existe pas encore ou elle n'est pas visible, c'est plutôt ça d'ailleurs, mais qui ont eu une volonté de protéger cette jeune femme. En un mot, toutes ces associations-là avaient pour but de protéger la virginité des femmes et de garder leur conformité religieuse dans les cas d'éventuels mariages. Et donc, ces associations philanthropiques ont eu à la fois une volonté de domination, ce qui limitait l'émancipation, et à la fois, elles avaient un rôle de passeur. Et elles avaient un rôle de passeur de savoir auprès de l'État, puisque souvent ces grandes associations disaient à l'État « oui, il faudrait faire ça, il faudrait agir comme ça, etc. » et parfois un rôle de protecteur dans des situations d'urgence. Et la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que finalement l'action philanthropique, puisqu'aujourd'hui l'État se retire de ses grandes prérogatives sociales, est-ce que l'action philanthropique est toujours aussi binaire lorsqu'elle existe, ou appelons-la action associative, est-ce qu'elle est toujours aussi dominatrice, et est-ce qu'elle sert parfois encore de lieu de savoir pour pouvoir légiférer sur les situations? C'est la première question que je voudrais poser. J'en ai d'autres. Comme tu veux, on passe le micro à la salle maintenant, ou on peut en discuter maintenant et discuter avec la salle, comme tu veux. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, c'est toujours un peu long à démarrer. Hein. Je vous amène le micro.
Bonsoir. Je pensais, quand vous parliez beaucoup du domaine de travail des femmes migrantes qui semblaient se concentrer beaucoup dans les activités de service et domesticité, je pensais beaucoup à la migration des femmes latinos à la frontière du Mexique, et qui, elles, sont beaucoup recrutées dans le domaine industriel, plutôt pour travailler dans les usines de fabrication d'objets divers et variés. Et je voulais savoir si c'était un phénomène qui se retrouvait éventuellement en Europe ou ailleurs dans le monde. C'était une première interrogation et je vais juste en donner une deuxième rapidement. Par rapport donc toujours à cette perspective de genre sur la migration, est-ce qu'il y a des études qui différencient le cas des femmes qui viennent de sociétés plutôt matriarcales, donc dans leur société d'origine, ou plutôt dans des sociétés où l'homme a le pouvoir ?
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant ? Je te remets le micro.
Une autre question ? Oui, d'abord ta question, Yann. En fait, c'est vrai qu'il existe, il existe certains travaux qui insistent sur la continuité historique. Et là, je ne sais pas si tu connais le travail de Michel Chaumont, justement, qui avait publié un livre qui s'appelle La concurrence des victimes, d'une part, mais il a publié un autre livre sur le trafic. L'usage à la fois politique, médiatique, autre, du trafic des êtres humains dans le contexte historique et dans le contexte actuel. Il s'est basé beaucoup sur les archives, pour montrer que, par exemple, le trafic des blanches était une construction politique liée à un contexte où, justement, il fallait victimiser les unes pour mieux criminaliser les autres. Et qu'à l'époque, les principaux trafiquants étaient ou des étrangers ou des juifs, ou en tout cas les étrangers de l'intérieur ou les étrangers de l'extérieur, mais en tout cas, n'étaient pas du bon côté de la frontière.
C'était livré, c'était pas le bon.
Oui,
point.
Oui. En fait, j'avais noté que tu insistes. Tu as parlé des références à la prostitution, en fait, les références historiques à des migrantes seules ou à des femmes qui s'orientent vers la prostitution. En fait, que ce soit dans les références théoriques, dans les travaux théoriques ou dans les travaux actuels qui ont négligé la migration des femmes, ces travaux, n'oublient pas de les citer. Par exemple, on retrouve beaucoup d'exemples qui se réfèrent à des migrantes femmes. C'est-à-dire, dans les exemples et dans les données ethnographiques, on retrouve beaucoup de femmes, que ce soit d'un point de vue historique ou actuel. On retrouve beaucoup de femmes dans les données ethnographiques, mais on ne les retrouve pas. On les perd dès qu'il s'agit de passer à l'étape de la théorisation ou de la construction du modèle. Dans l'analyse générale, on ne retrouve pas des femmes. Le modèle mis en avant, c'est un modèle masculin, mais dans les données ethnographiques, on retrouve des femmes à différents moments historiques et dans différents types de travaux. Parce que c'est une question de regard, justement, c'est de l'analyse androcentrique qui ne permet pas. Je vais vous donner un exemple, justement, cité par Nicole-Claude Mathieu, qui a beaucoup travaillé sur la vision androcentrique des travaux anthropologiques en France. Il cite un ouvrage où Claude Lévi-Strauss parle pendant une dizaine de pages du village où il a enquêté en Amazonie. Et au bout d'une dizaine de pages, voire plus, il décrit une situation où il s'est levé un peu tard par rapport à d'habitude et il s'est rendu compte que tous les villageois, et il l'écrit, les villageois sont partis, l'ont laissé seul avec les femmes et les enfants. Et là, on se rend compte que toutes ces analyses précédentes se basaient sur ce qu'il a pu échanger ou voir auprès des hommes et non pas du tout des femmes. Que les villages, pour lui, c'est les hommes. Les hommes, bien sûr, d'un certain âge. Mais en tout cas, oui, la vision androcentrique permet en tout cas, n'empêche pas de se référer à des exemples ou à des données empiriques sur des femmes où les femmes sont introduites, mais dans les analyses, dans les modèles théoriques, elles ne sont pas prises en compte. Sur les associations, actuellement, je pense que les choses, entre guillemets, sont différentes. J'ai l'impression, d'autant plus que l'État s'est introduit avec ses financements et ses. En tout cas, la place de l'État n'est pas la même dans les deux contextes. Et par exemple, si l'on se réfère au contexte français actuel où les associations se mobilisent beaucoup, où certaines associations Après, il existe des associations, par exemple, des droits des femmes, associations migration, associations religieuses, ou en tout cas qui se réfèrent à la religion, par exemple, islamique, et pas seulement protestante ou catholique, notamment pour les migrantes philippines. Mais en tout cas, j'ai beaucoup enquêté parmi des acteurs associatifs de lutte sur les droits des femmes. Alors, j'ai pas beaucoup travaillé sur d'autres types d'associations, mais dans les secteurs, dans les associations de travail auprès des migrantes ou pour les droits des migrantes, les migrantes sont des objets de lutte, mais rarement prises en compte comme des sujets, actrices. On parle à leur place, mais on continue à ne pas les prendre en compte comme acteurs, comme... Pardon ?
Un grand classique
qui n'est pas propre à ce domaine associatif, ni au domaine associatif.
Attendez, je vous donne le micro.
Oui.
Juste un petit aparté, oui, elles sont quand même regardées, ces femmes, puisque par exemple le capitalisme espagnol, le français aussi sûrement, mais le capitalisme espagnol a bien cerné le fait que par exemple il pouvait faire venir des migrantes du Maroc, mais des femmes qui avaient déjà des enfants au pays. De cette manière, il s'assure que ces femmes ne resteront pas en Espagne, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, elles font des allers-retours continuels entre le Maroc et l'Espagne, une fois les saisons finies. Donc, c'est quand même, le capitalisme a quand même un regard sociologique, mais très intéressé, sur quand même ces populations. Donc, il est quand même capable de cerner ce qui lui rapportera le mieux et ce qui l'embêtera le moins. Voilà, c'est tout.
Oui, non, merci pour cette précision, mais sauf que ce que j'ai essayé de dire ici, peut-être pas très clairement, c'est que justement, le capitalisme ne date pas d'aujourd'hui, il ne se limite pas à une migration par rapport à une autre, il est historique, il est historiquement construit, il a construit les premières migrations de travail, mais les premières migrations de travail ne datent pas de la période contemporaine, ne se limitent pas à la période contemporaine, mais en tout cas, il a construit les premières migrations, par exemple, coloniales, et il continue à déterminer plusieurs autres migrations. Pour ce qui est des migrations de Marocaines qui travaillent dans les secteurs agricoles en Espagne, je vous renvoie au travail de Shadia Arab, qui est d'ailleurs de Poitiers.
Oui, elle a fait sa thèse ici, oui. À Migrantaire.
Oui, justement, et qui a récemment fait une enquête auprès de travailleuses saisonnières marocaines en Espagne. Mais contrairement à ce que pensait, à ce qu'espérait l'État espagnol, pour beaucoup de femmes, il ne suffit pas d'avoir des enfants au Maroc pour ne pas rester en Espagne ou pour ne pas utiliser ce départ pour partir dans d'autres pays. En tout cas, les exigences des lois migratoires espagnoles se modifient justement selon les pratiques, selon ce qu'ils retiennent des pratiques des migrantes elles-mêmes. Au début, on avait exigé que les femmes, que ce soit des femmes et non pas des hommes, puis que ce soit des femmes mères, puis des femmes d'un certain âge, des femmes, ensuite femmes mères d'un certain nombre d'enfants, pas qu'un seul enfant. Alors oui, les critères ont changé selon les moments historiques. Pour ce qui est du travail dans l'industrie, bien sûr, là, il a été vraiment de dire quel est le secteur de travail qui a été visibilisé grâce à l'introduction du genre. Mais bien sûr, le travail dans l'industrie existe, et pas seulement dans le cas des frontières Mexique-États-Unis, mais dans le cadre de différentes autres migrations internes ou dans différentes autres frontières du monde, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et pour ce qui est justement des différents secteurs de travail dans lesquels sont orientées les migrantes dans le contexte de la mondialisation, je vous renvoie de nouveau au travail de Jules Falquet dans un livre qui s'appelle « De gré ou de force ». Société matriarcale, société où le, pour reprendre votre formule, où l'homme a plus de pouvoir, en fait, selon beaucoup d'anthropologues, plutôt selon certains anthropologues, il n'existe pas de société matriarcale. Parce que qu'est-ce que ça suppose, une société matriarcale? Ça suppose que les femmes dans cette société ont le pouvoir avec un P majuscule, au même titre que les hommes dans les sociétés patriarcales. Alors, il existe des sociétés matrilinéaires où les femmes ont un certain nombre, un certain pouvoir comparativement aux femmes dans les sociétés patriarcales, par, en termes de filiation, en termes de lignée familiale, mais il n'existe pas de société, selon par exemple Nicole-Claude Mathieu, de société où les femmes auraient le pouvoir, donc le pouvoir à la fois politique, guerrier, religieux, économique, les différentes formes de pouvoir, le pouvoir au même titre que les hommes dans les sociétés patriarcales. Certains travaux, même celui de Mériana Morog-Vazic, ont essayé de distinguer entre différents types de sociétés, différents types de sociétés pour dire que les femmes peuvent ou pas migrer dans telle ou telle société. Et justement, le Maghreb, dans ses travaux, se retrouve souvent dans la catégorie des sociétés où les femmes ne peuvent pas, par exemple, partir seules. Mais c'est l'une des erreurs, justement, de ces analyses, que de réduire la domination masculine à certaines sociétés, que de hiérarchiser entre les sociétés selon le degré de domination. Parce qu'en fait, la domination masculine existe dans différentes sociétés, elle a des variantes différentes, elle se produit différemment selon les sociétés, les milieux sociaux dans cette société, mais il n'existe pas, à ma connaissance, une société où la position des femmes a facilité ou a créé leur migration de manière plus importante. Mais peut-être que vous avez des exemples contradictoires. Qui me contredisent.
Je pensais à un exemple dont j'ai entendu parler en fait dans la région de Lyon, parce que c'est là que je viens, je suis arrivé assez récemment, et j'ai entendu parler de cas en fait dans les communautés chinoises où les femmes prenaient très clairement en main l'organisation non seulement de la famille, mais d'une partie de la communauté migrante, et je me demandais si c'était un fait, si ça venait peut-être d'une organisation dans la région en Chine d'origine, ou si c'était peut-être, par contre, alors c'est peut-être plus le cas effectivement, d'un cas individuel et je sais pas, un renforcement du fait d'avoir traversé tant d'épreuves au niveau individuel, ce qui fait que cette femme-là à continuer à imposer sa liberté, son goût du pouvoir, peut-être une fois qu'elle était arrivée, une fois que son processus migratoire était, en tout cas temporairement, arrêté. Quoi.
Juste pour vous répondre rapidement, en fait, je pense qu'il vaut mieux lire le travail, il vaut mieux que je vous renvoie au travail de Florence Lévy, qui a travaillé sur la migration des femmes chinoises du nord de Chine en France, où il reflète plutôt les formes d'oppression que subissent ces femmes-là, à la fois en Chine et en France. Et le deuxième point, c'est que oui, des femmes pionnières exceptionnelles, comme des hommes pionniers ou entre guillemets, en tout cas des hommes qui ont des pratiques différentes et des femmes qui ont des pratiques différentes, qu'on peut juger différentes, existent dans différentes populations. Et je pense, quand on se réfère au genre, il est important de se référer à des cas exceptionnels, mais en même temps, ne pas se baser sur les cas exceptionnels, mais sur le rapport social, comment le groupe des femmes est construit par rapport au groupe des hommes, sans prendre en compte les hommes ou les femmes individuellement.
Je viens de m'apercevoir que c'est un exemple qui me semble tellement évident que j'ai toujours oublié de le donner en cours. C'est exactement ça. Le cas des femmes exceptionnelles ou des hommes exceptionnels, il y en a, hein, écoute. Mais et c'est effectivement, ça ne fait jamais école. Pour le coup, il faut regarder les organisations sociales. Et ça, c'est tout à fait vrai. J'espère que vous avez pigé le truc. Je parle à mes étudiants, bien évidemment. Mais ça, c'est certain. Ça, et vous pensez que c'est majoritaire, ce que vous avez vu, ou c'est juste un cas isolé?
Non, justement, je me posais la question.
Raconter une anecdote. une anecdote, une chercheuse dont je ne citerai pas le nom, qui a une renommée assez importante en anthropologie en France, a décidé de mener son terrain au Maroc auprès des femmes travailleuses informelles. Elle a été orientée vers une personne au Maroc qui devait lui présenter des femmes travailleuses informelles. Cette personne-là lui a présenté des commerçantes. Elle a passé une journée parmi ces commerçantes dans un marché de la banlieue de Casablanca. Au bout d'une journée, elle a décidé d'arrêter son terrain parce que ça déconstruisait toutes ses représentations sur ce que pouvaient être les femmes du Maghreb. Et justement, son principal constat était le fait que ce ne sont pas des femmes, mais des hommes. Et qu'elle ne voulait pas travailler parmi des hommes. C'était pas des hommes, c'était des faux hommes en plus. Alors.
Les certitudes, quand ça tombe, ça fait du bien, mais parfois c'est dur, évidemment. Pour la poursuite de la discussion, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie d'intervenir ? Oui, bien sûr. Si vous voulez bien vous présenter en même temps.
Oui. Je peux me présenter, mais effectivement, je suis à titre personnel, mais je travaille aussi avec des migrants. Donc, je voulais vous remercier parce que tout ce que vous avez dit fait écho. Et puis, du coup, je pense à ce discours du stigmate de la prostituée pour la femme migrante seule. Et je me dis que ce discours, il est imprégné très longtemps après la migration, parce que moi, je travaille notamment avec des travailleurs sociaux, hein, des gens qui sont ouverts, et parfois, notamment avec des femmes d'Afrique subsaharienne, quand elles sont seules avec des enfants de pères différents, il y a toujours, est-ce qu'elles sont prostituées ? Et souvent, ce que je leur réponds, c'est... Est-ce que vous avez une copine qui a deux enfants avec des pères différents ? Est-ce que vous la soupçonnez ? Ou est-ce que vous avez l'idée de penser qu'elle se prostitue ? Alors, ça fait réagir, effectivement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement imprégné qu'une femme qui vit seule... Moi, je travaille beaucoup avec des femmes, effectivement, d'Afrique de l'Ouest, qui souvent sont... Enfin, celles avec qui je travaille sont seules parce qu'elles sont souvent dans une précarité plus importante... que certaines familles et j'ai remarqué plusieurs fois, enfin là ça fait écho vraiment, et j'avais pas vraiment toujours analysé pourquoi ce discours revenait toujours sur effectivement c'est peut-être des prostituées, et voilà, il y avait d'autres échos par rapport à la déclassement des femmes, et je repensais à cette bonne idée qu'avait eue M. Sarkozy, il n'en a pas souvent, notamment vis-à-vis des étrangers, par rapport à la circulaire de régularisation des parents qui avaient des enfants scolarisés. Et nous, on était toujours, on a été très surpris qu'il y avait eu cette décision de circulaire, alors sous la pression, hein, sous la pression notamment du réseau Éducation sans frontières. Mais je pense que dans les bureaux, quand ils ont décidé cette circulaire, ils n'avaient pas imaginé que la population migrante sans papier scolarisait leurs enfants. Je pense que... Alors, très, très vite, hein, vous savez... Enfin, je vous dis que cette circulaire n'a pas pu être appliquée jusqu'au bout parce qu'on a mis des quotas très, très vite, parce que les conditions posées, leur semblaient très... très difficile, il fallait que l'enfant soit scolarisé toute l'année, qu'il n'y ait pas eu d'interruption, qu'il soit scolarisé depuis 3 ans. Donc on n'imaginait pas, au ministère de l'immigration en tout cas, qu'il pouvait y avoir autant de personnes sans papier qui scolarisaient régulièrement et de manière fidèle leurs enfants, même en très bas âge, même en maternelle. Et donc on avait cette idée qu'on était dans une population qui... où l'école n'était pas importante, par exemple, où il n'y avait pas cette transmission et que c'est parce que c'était obligatoire qu'on menait les enfants à l'école. Et nous, on savait très bien, en côtoyant ces personnes, que ce n'était pas le cas. Et donc, il y avait plus de personnes qui correspondaient à ces critères que ce qu'ils avaient imaginé. Et donc, ils ont stoppé la régularisation assez vite. Voilà, c'était quelques échos que m'ont fait. Mais donc voilà, je n'avais pas de questions particulières.
Vous savez, quand les lois Ferry, en 1880, 82, 83, les lois Ferry sont créées, le législateur, alors que la France, depuis 1880, il y a plus d'un million d'étrangers déjà, le législateur oublie complètement de parler des enfants étrangers, parce que pour lui, ils n'ont pas vocation à être scolarisés. Et l'État, à ce moment-là, s'aperçoit qu'effectivement, tous les enfants d'étrangers, et Dieu sait s'ils sont nombreux à l'époque, sont effectivement scolarisés. Mais là, ça ne lui pose pas de problème à ce moment-là. D'autres interventions ? Oui, Martine ?
Je peux juste dire un point.
Ah oui, bien évidemment. En fait, oui.
En tout cas, merci d'être revenu aussi sur le prolongement de la stigmatisation. Et justement, je pense que ce n'est pas un hasard si ce sont les migrantes d'Afrique subsaharienne anglophone qui subissent ce stigmate dans le milieu du travail social. Et ce stigmate, je l'ai rencontré moi-même, puisque je fais beaucoup de formations auprès de travailleurs sociaux, de futurs travailleurs sociaux. Et justement, une femme d'Afrique anglophone, ou plutôt un enfant, une jeune fille qui a des difficultés, qui rencontre des éducateurs spécialisés, elle aura beaucoup de chance d'être assimilée à une fille en souffrance, tout simplement parce que sa mère, étant africaine anglophone, est une prostituée et que pour la jeune fille, il est difficile d'assumer. Mais en tout cas, ça nous renvoie à la construction des discours et des pratiques de travailleurs sociaux par les médias. Comment les médias construisent justement les normes du travail social, je pense, ça renvoie. C'est les médias et les discours politiques. Ce n'est pas par hasard que ce soit des africaines subsahariennes anglophones qui subissent ce stigmate, d'autant plus que le contexte médiatique et politique les considère comme objet d'un trafic important, d'un trafic d'êtres humains, en tout cas les assimile à la prostitution. Bon, parenthèse.
Personnellement, je suis travailleuse sociale et non, je ne fais pas ce discours-là non plus. Oui. Et ce que j'entends autour de moi, ce n'est pas ça non plus. Quoi. Moi aussi, je travaille avec des migrants et voilà, on n'a pas du tout cette pensée-là. C'est peut-être vrai, hein, enfin, certainement. Il y a des missiles partout, je veux dire, mais...
En tout cas, les travailleurs sociaux, c'est juste un exemple. Ça veut pas dire, c'est juste un exemple sur lequel on se base. Mais ça peut être un stigmate qui est reproduit par des chercheurs, par des enseignants, par des journalistes, par différents acteurs. On s'est référé aux travailleurs sociaux parce que ce sont des acteurs qui travaillent auprès de ces populations, mais on peut le lire aussi dans des travaux scientifiques.
Martine ?
Oui, je voulais seulement savoir, c'est une question un peu naïve, mais vous avez parlé plus tôt que les femmes migrantes ne sont pas reconnues comme groupe politique, qu'entre autres, ça a ajouté une difficulté pour obtenir le statut de réfugié ou de demandeur d'asile. Mais je me questionnais, quand on pense à la définition de ce qu'est un demandeur d'asile ou un réfugié, en pensant que le dossier doit être évalué de façon individuelle selon un récit de vie, comment le regroupement politique ou le genre peut jouer un rôle dans l'acquisition de ces statuts-là? Comment ça peut rajouter une difficulté, en fait, à l'acquisition du statut?
Non, en tout cas, le groupe femme, il est reconnu comme groupe. Les femmes sont reconnues comme groupe par le Haut Commissariat aux réfugiés, par exemple. Il est reconnu comme groupe, mais dans certains textes et pas d'autres. Et par exemple, inclure le genre dans la reconnaissance du droit d'asile, par exemple, c'est inclure les viols contre les femmes dans les guerres, inclure les formes de mobilisation particulières des femmes, inclure le fait que les femmes ne sont pas reconnues, compris dans leur société, que beaucoup de femmes ne sont pas reconnues comme acteurs politiques parce qu'elles ont des formes de mobilisation qui peuvent être différentes par rapport à certains hommes. En tout cas, inclure la différenciation entre les sexes dans la reconnaissance de l'exilé, de la figure de l'exilé politique.
D'autres questions ? Oui.
C'est pas une question, c'est juste un petit commentaire. Amusé, vous avez beaucoup développé l'apport en fait de l'étude de genre justement dans l'étude sur l'immigration et par rapport à ce que vous disiez aussi sur la perspective sur la sexualité, je trouve que l'étude justement des femmes migrantes est intéressante aussi du point de vue des études de genre sur la perspective et la façon de considérer la sexualité par les sociétés en général, et en particulier les sociétés d'accueil dites développées d'une grande partie de ces femmes migrantes. On peut inverser l'apport oui. mutuel.
Tu veux rebondir ?
Pas tout de suite.
Vous avez parlé par rapport à l'acquisition de l'autonomie des femmes migrantes, du rôle du travail. Mais en fait, je reprends un peu une question que vous avez esquissée. C'est justement, est-ce qu'il n'y a pas... quels sont les autres facteurs qui permettent cette autonomie auprès des femmes migrantes dans les pays d'accueil? Puisque ça aussi, vous avez commencé à en parler, puisque les femmes migrantes ont en général des... Enfin, je ne sais pas en général, mais on peut avoir des taux d'emploi relativement bas. Et moi, je voulais en fait interroger le... Enfin, c'est quelque chose qu'en fait qu'on a pu constater dans des projets de dans des études de terrain, bon, à un niveau tout à fait un niveau très faible, mais ce qu'on a pu voir nous notamment en travaillant avec des femmes guinéennes, c'est que justement elles sont très peu employées, mais par contre elles sont extrêmement visibles. Donc justement, vous parliez de visibilisation, et notamment elles sont visibles justement du fait qu'elles ne travaillent pas et qu'elles s'occupent des enfants. Et que les hommes, eux, ça ne les intéresse pas du tout. Ils ne considèrent pas que c'est leur rôle, en tout cas dans ce cas-là. Et donc, du coup, en fait, le fait qu'elles s'occupent des enfants fait qu'elles sont très visibles, puisque c'est elles qui sont en relation avec les professeurs, avec les acteurs sociaux, etc. Donc, voilà. Quels sont les autres facteurs que le travail, puisque ce facteur-là est forcément à remettre en question? Et qu'est-ce que vous pensez voilà, de ce que je viens de dire, du fait du rôle auprès des enfants et de la visibilité des femmes de ce fait-là?
C'est du travail.
Vous n'avez pas encore d'enfants. Mais
c'est du travail, justement, non payé, non reconnu, non. Et justement, l'introduction de la perspective genre, justement, permet de dire que les personnes, en particulier les femmes, qui gardent des enfants, qui, en tout cas, qui n'existent pas de femmes au foyer, inactives, assises, qui est supposée être servie par d'autres. C'est-à-dire l'introduction de la perspective genre permet de reconnaître le travail domestique comme un travail important, qui peut être rémunérée, la même activité, par exemple garde d'enfants, peut être rémunérée s'il est exercé par un individu extérieur à la famille, employé. Ou la même activité peut être reconnue ou pas selon la personne qui l'exerce. Mais en tout cas, l'introduction de la perspective genre permet d'inclure le travail domestique et donc les services, non seulement la garde d'enfants, les services aux personnes âgées, tous les soins qu'on peut apporter à la personne comme un travail. Après, sur la question de la visibilité par le travail, ce n'est pas le fait qu'elles travaillent qui a permis de les visibiliser. Ce n'est pas ce que j'ai essayé de dire, mais ce que j'ai essayé de dire, dans les travaux qui ont introduit la perspective genre, c'est en se référant au travail qu'ils ont permis de visibiliser les femmes migrantes. C'est la référence au travail qui a permis de les visibiliser. Parce que pendant longtemps, en France notamment, pendant longtemps jusqu'à la fin des années 80, la plupart des travaux sur femmes immigrées, et on ne pensait pas genre migration, mais en tout cas femmes immigrées, se référaient par exemple au changement culturel, aux relations familiales. On avait beaucoup de livres, et pas seulement des livres, et des articles et autres travaux ou rapports qui portait sur les liens mère-enfant, le changement, les transformations culturelles du Maghreb en France. En tout cas, beaucoup de travaux qui se réfèrent à des perspectives culturalistes qui étaient situées dans un contexte donné, mais en tout cas, qui n'ont pas intégré la question du travail. Les travaux sur genre ont intégré cette démarche-là, plutôt ce secteur-là ou cette question-là du travail dans ses différentes formes, non seulement le travail salarié reconnu, le travail informel, le travail domestique, différents types de travail, qu'ils soient reconnus ou pas, payés ou pas. les facteurs qui permettent cette autonomie, les facteurs autres que le travail. En fait, ici, il n'a pas été question de dire que l'autonomie existe ou pas, qu'elle est importante ou pas. C'est-à-dire, le fait de se référer au travail pour parler d'autonomie pose problème dans la mesure même où le travail auquel ces migrants sont assignés est un travail dévalorisé, mal payé ou mal reconnu, mais en même temps, parce que justement, il existe une injonction à l'autonomie qu'on peut questionner, qui est à nuancer. Qu'est-ce que l'autonomie d'abord? Faut-il être autonome? De quelle manière? Qui peut être autonome? De quelle manière? Dans quel contexte? En tout cas, qu'est-ce que l'autonomie? Taux d'emploi relativement bas, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ça dépend comment on définit l'emploi, le travail. Et puis, en général, le taux d'emploi parmi les migrantes est important par rapport, et aussi la qualification est importante par rapport au taux de travail, taux d'emploi, pardon, chez les populations féminines nationales. Après, ça dépend des moments, c'est vrai que c'est ou bien aussi important ou bien c'est plus important.
Merci mille fois. Donc, vraiment, une fois encore, mille merci. Je ne l'ai pas dit au début, et pourtant, ça me semble important, parce que la France est un tout petit pays, mais les relations Est-Ouest entrant d'une ville à l'autre sont compliquées, et tu nous viens de Grenoble, et c'est quand même pas si simple que ça, donc ça fait quand même beaucoup de kilomètres en train. Et je t'en remercie vraiment mille fois. Et je voudrais aussi remercier... Que les étudiants soient là, ça me paraît logique. Mais je voudrais remercier aussi tout le public qui vient nous voir, parce que je crois que c'est comme ça que les savoirs se diffusent. Et je vous remercie mille fois, en tout cas, à tous. Merci.
Merci à toi et merci à vous tous. Et bonne continuation pour les étudiants.